18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes vendredi 13 mars et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.fm. En partenariat avec Radio U, l'ENIB vous propose une mini-série autour du rêve américain à retrouver en fin d'émission. Les élections municipales se tiendront à Brest les 15 et 22 mars prochains et à cette occasion, Radio U vous propose 2 semaines complètes consacrées aux municipales. L'occasion pour les candidats et candidates en lice pour la mairie et la métropole de Brest de nous parler de leurs programmes et de leurs initiatives. Nous avons ainsi convié toutes les listes et avons donc reçu tous les candidats et candidates qui ont répondu favorablement à notre invitation. Notre reporter Bré-Wallen est également allé à la rencontre des Brestois et Brestoises et notamment des étudiants et étudiantes en leur posant la question « Que feriez-vous si vous étiez maire ?» Et nous recevons ce soir notre dernier invité, Yoran Eli, candidat aux élections municipales pour la liste citoyenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous, notre première question, c'est tout simplement pourquoi avoir choisi de vous engager dans cette campagne municipale ?
C'est à force de voir justement les gens qui ont créé ce projet depuis 2 ans. J'ai pu côtoyer par exemple Vincent Garcia et d'autres membres de ce projet qui ont travaillé, qui ont conçu, qui ont ouvert au débat pour aboutir à ce projet-là. Et finalement, je l'ai rejoint très tard en janvier. Et de là, je me suis juste dit au début, j'ai envie de faire aboutir leur idée, de dire finalement changer le mode politique. Et je me suis retrouvé à m'engager pour eux au début, à essayer d'organiser des événements et finalement arriver à un moment d'être tiré au sort parmi les candidats pour être en tête de liste. Donc il y a un peu de hasard et une volonté finalement de faire changer les choses.
Et donc votre liste citoyenne se veut différente des autres dans le fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Déjà je pense que tout part de l'idée des municipales à Saillant, c'est-à-dire en 2014, c'est une petite ville qui a réussi à faire une liste citoyenne et on s'est inspiré de ça et on a abouti complètement à un modèle différent où finalement l'élu en lui-même, c'est pas lui qui prend la décision, il applique des décisions. On pense que les élus n'ont pas de meilleures idées, de meilleures informations que le commun des habitants. Donc en fait, on voit pas pourquoi ce serait à eux de faire des propositions que les habitants suivraient. Ça doit être l'inverse. On change complètement de modèle. Au lieu que ça parte du haut pour se demander aux habitants, nous on demande aux habitants et c'est eux qui nous disent quoi faire. On croit plus en l'intelligence collective, finalement, de comment plein de gens ensemble peuvent aboutir à une bonne réflexion et à des solutions viables, plutôt qu'à un petit groupe de gens qui pourraient décider pour les autres en les infantilisant. Donc, je pense qu'on a vraiment l'impression que la politique infantilise les gens et veut finalement leur dire non, mais vous n'êtes pas capable. Alors qu'on se rend compte là au fur et à mesure, on n'a pas l'impression d'être moins capable que les autres candidats aujourd'hui. Alors qu'aucun de nous n'a jamais fait de politique.
Et donc, derrière un programme électoral se trouvent les valeurs et les opinions qu'on doit transmettre. Quelles sont les vôtres ?
Avant tout, je dirais que c'est la citoyenneté. Je dirais qu'à titre personnel, de toutes les personnes listes, on a beaucoup d'autres valeurs, mais qu'on veut pas mettre en avant, justement, parce que c'est pas notre but de dire, nous, on pense ça. Notre force, c'est de dire, c'est notre programme, on est ouvert à tout le monde. Et c'est vraiment ce côté-là. C'est la démocratie directe et participative. C'est la valeur principale d'être à l'écoute de tous les habitants.
Et donc vous êtes candidat pour la ville de Brest. La ville de Brest, c'est une ville étudiante avec 29 000 étudiants et étudiantes, dont 3 000 internationaux. Quelle est votre vision du monde étudiant ?
Alors déjà, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'ai fait mes études à Brest, donc j'ai une vision de la vie étudiante très sympathique, je dois dire. Après, j'ai aucun plan particulier, on n'a aucune vision. On veut juste, dans notre modèle de gouvernance, justement, pouvoir donner la parole non seulement aux habitants, mais aussi aux étudiants. Et justement, au travers des conseils de quartier qu'on veut mettre en place, les étudiants ont leur place comme tous les habitants. C'est pas juste les électeurs, les citoyens, ça peut être n'importe qui. Au final, on pourrait peut-être, même si des personnes sans papier ou en situation irrégulière viennent donner leurs idées, il n'y a aucune raison, vu qu'ils habitent là, qu'on ne les prenne pas en compte.
Radio 8 est une radio associative, donc on va notamment aborder la question du secteur associatif. Le 6 janvier dernier, le Maquis, qui est un lieu de création, un collectif d'artistes et une zone de partage artistique et politique à Brest, a écrit une lettre co-signée par une quinzaine d'associations pour alerter sur la mise en danger du secteur associatif. Donc je vais juste citer quelques passages de cette lettre. Elle commence par des chiffres. 1500 associations dans la métropole, 8000 sur le pays de Brest, 4 personnes sur 10 sont bénévoles, soit 55 000 à Brest, 85 000 dans la métropole et près de 160 000 sur le bassin de vie. Donc elle explique que sans les associations, il n'y a pas de sport, pas de culture, pas de loisirs pour tous et toutes, pas de solidarité, moins d'éducation, moins de débats publics, une transition écologique compromise et un accroissement des inégalités. Et donc cette lettre, elle continue en disant, je cite, « En tant qu'acteur et actrice du monde associatif, nous voulons alerter les élus et candidats et candidates sur l'affaiblissement, voire l'usure des énergies et des initiatives portées sur le territoire, ce qui n'est pas sans conséquence pour les équilibres déjà mis à mal par les inégalités économiques et sociales. » Donc cette lettre, vous en avez eu connaissance, oui. Et votre liste a participé à l'Agora sur la politique associative à Brest le 24 février au Maquis. Comment est-ce que vous abordez cette question du secteur associatif?
Vu que notre programme, c'est vraiment un changement de modèle, la première réaction, c'est qu'on a du mal finalement à dire on n'est pas là pour faire les propositions, on est là pour écouter vos propositions. Et c'est vrai qu'en lisant la lettre, en se rappelant ces chiffres, que ça touche 55 000 personnes, un habitant sur 4, on se dit finalement on a peut-être fait le bon choix de partir sur le modèle d'écouter les habitants. Parce que si un habitant sur 4 est investi dans les associations, si on leur donne le pouvoir de gérer tout le budget d'investissement de la ville, il y a de grandes chances que ça retombe dans finalement leurs activités. Voilà, c'est j'ai repris la réponse qu'on avait dû faire lors de l'assemblée au Maquis. Et ben voilà, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire. On va vous écouter, donc forcément, on va vous donner tous les outils pour potentiellement vous décider à avoir les budgets que vous avez besoin. Après, ça reste dans la limite du budget de la ville qui, voilà, aujourd'hui c'est 160 millions d'euros. La part du budget d'investissement, là je l'ai plus en tête, mais il y a de l'argent. C'est pas que les 500 000 euros, par exemple, qu'on a pu donner de budget participatif cette année. Il y a potentiellement plus.
Et donc sur le thème de la culture, est-ce que vous avez connaissance de la notion de droit culturel ?
Alors là, comme ça, je dirais que non.
En fait, c'est une notion qui se base sur la déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007 et qui se définit notamment par le fait que l'accès à la culture est un droit fondamental et qu'il doit l'être pour tous et toutes. Quel est votre positionnement là-dessus ?
Alors je dirais faire une réponse personnelle au début. C'est vrai que je pense que si on n'a pas accès à une culture, si on n'a pas non plus le temps, il faut du temps pour réfléchir, avoir cet accès-là, c'est un manque qu'on... Finalement, on n'est peut-être pas complètement développé. Après, au titre de la liste, je pense que personne n'irait dans une position contraire de dire qu'il faut empêcher la culture, il faut qu'elle soit développée. Et voilà, je vais quand même m'engager à dire qu'on est quand même très ouvert à un accès généralisé à la culture. Toutes les cultures. On ne veut pas non plus cibler plus un aspect ou un autre. On n'est pas pour décider quelle culture vaut la peine d'être subventionnée ou non.
Et justement, sur cette question des subventions, comment est-ce que concrètement ça fonctionnerait ?
Alors concrètement, que ce soit l'aspect culturel ou n'importe quel autre budget, passerait par les mêmes mécanismes. Alors, on va partir d'un simple habitant. N'importe quel habitant peut avoir un droit de pétition. Donc pour éviter d'avoir des abus, on a dit tous les ans, chaque citoyen a un droit de pétition. Donc là, on s'adresse, je crois, uniquement aux électeurs dans ce cas précis. Selon le nombre de signataires de cette pétition, on réoriente la pétition directement vers les conseils de quartier, qui peut les épauler, et faire le dialogue avec les différents services techniques pour lesquels on aurait besoin de leur accord, leur aval, leur décision. Donc dans ce contexte, le porteur du projet et toutes les gens autour volontaires vont essayer de faire avancer ce projet. Sachant que si la pétition récolte beaucoup de signatures, alors c'est au-delà de 30 000, ce qui est énorme, on dit simplement, ok, c'est un référendum, nous on n'a pas notre mot à dire, on pose la question telle qu'elle aux gens, s'il y a 30 000 personnes qui sont prêtes à signer cette pétition, et ben on officialise ça, on fait la pétition, et nous on s'est engagé au travers d'une charte à valider si quelqu'un, si le référendum est fait, nous on appliquera la décision du référendum. Donc là, on a une voie. Il y a d'autres voies, c'est les conseils de quartier directement. Des gens, n'importe qui, peut aller se réunir dans les conseils de quartier, dans lesquels on compte justement mettre des moyens pour qu'il y ait des débats sereins, qu'il y ait des environnements. Ça passe par des choses peut-être bêtes, organiser des crèches, des gardes d'enfants, mais aussi à faire appel à des médiateurs et des porteurs de parole qui vont pouvoir permettre de gérer sainement un débat pour faire aboutir à une décision. Donc ces gens ont beaucoup d'outils qu'on appelle sociocratiques qui permettent de sereinement ne pas partir dans des débats, des joutes verbales et quand même arriver malgré le grand nombre à une décision qui semble saine. Donc les décisions de ces assemblées sont ensuite portées vers ce qu'on a envie de créer, c'est des assemblées citoyennes thématiques. Donc chaque assemblée comporterait 50 personnes tirées au hasard pour un mandat d'un an. Et du coup, pareil, ces gens seraient formés, on leur apprendrait à prendre des décisions, en tout cas, comment se méfier de tous les petites bizarreries de la langue, faire appel aux experts, finalement être sûr d'eux-mêmes au moment de prendre la décision, et toujours en utilisant des outils sociocratiques, prendre des décisions que le conseil municipal appliquerait telles quelles. Et pour ça, en fait, nous, on ne veut pas encadrer le débat. Encadrer, c'est peut-être un peu dur. On veut donner des outils pour que les gens puissent s'approprier le débat et parler d'eux-mêmes. Et je crois que j'ai fait le tour.
Nous, on va continuer en musique et je vais vous laisser le choix entre trois chansons. On a une chanson locale, Nanar Song du chanteur Donna du pays de Redon, une musique rétro, L'opportuniste de Jacques Dutronc, ou une musique émergente du monde, le titre Zan Bezen de la chanteuse israélienne Liraz.
Ça me tourne bien le titre de Zan Bezen.
C'est parti.
تو به کجا؟ به کجا؟
Vous êtes toujours sur Radio 101.fm. C'était Zen Bezen de la chanteuse Liraz. Nous sommes toujours en compagnie de Yoran Eli, candidat pour la mairie et la métropole de Brest pour la liste citoyenne. Qu'est-ce que vous avez pensé de la chanson ?
J'aime bien. En fait, j'aime bien les sonorités de, justement, de cette chanson un peu hébreu. J'avais déjà entendu d'autres chansons de cet artiste, mais celle-là, je ne connaissais pas.
Donc on va peut-être rappeler pour celles et ceux qui viendraient de nous rejoindre, vous proposez un système de démocratie directe. Quel serait le fonctionnement pour mettre en place des projets, choisir des budgets ?
Tout se fait au sein des conseils de quartier, des assemblées citoyennes thématiques ou par référendum. Voilà, c'est vraiment les trois constituantes. Donc la voie normale serait plutôt de passer par les conseils de quartier. C'est-à-dire discuter des problèmes au quotidien et que dans un conseil de quartier qui peut se réunir toutes les semaines, lui fasse remonter. Alors le but, c'est seulement de faire remonter deux propositions par semaine pour pas submerger les assemblées thématiques qui, elles, vont justement en s'appuyant sur tout le projet qui a été monté par le conseil de quartier en accord avec les services municipaux et peut-être d'autres experts ou des habitants volontaires. Voilà, c'est eux qui vont prendre la décision et nous, en tant qu'élus, on va simplement l'appliquer.
Et donc, qu'est-ce que ça apporterait face à une démocratie indirecte ?
Alors, pour nous, et c'est le point qu'on veut soulever, c'est voilà, ça fait remonter plus facilement les petits tracas quotidiens qui peuvent être facilement déjà réglés. On voit, beaucoup d'habitants nous ont parlé de, je sais pas, ils ont mis 7 ans pour refaire un trottoir dans leur rue, alors que ça posait problème. Il a fallu qu'un élu passe et se rende compte du problème pour que ça soit réglé. Là, c'est l'inverse. On veut que ça vienne les décisions vont venir du bas pour remonter vers l'élu et être mis en place. Donc, voilà.
On va partir maintenant un petit peu sur le sujet des transports. Selon l'enquête ménage déplacement du pays de Brest en 2018, sur la ville de Brest, la part modale de la marche comme moyen de transport est de 38%, 2% seulement pour le vélo et 9,5% pour les transports en commun. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres ?
Moi, je dirais, personnellement, j'utilise simplement le bus et la marche à pied. Je peux comprendre que des personnes ne se déplacent pas à vélo à Brest. Il y a quand même des montées assez terrifiantes. On propose rien de particulier pour changer ça. On s'appuie encore une fois sur les propositions des habitants. Notamment, on a fait une assemblée thématique, je dirais, un peu de test, vu qu'elle n'avait aucun pouvoir à ce moment-là sur les transports, avec la BAPAV, donc sur les mobilités actives. Mais encore une fois, voilà, on attend des habitants de qu'ils fassent des choix. S'ils nous disent, oui, on veut plus de vélo, on veut plus d'espace pour le vélo, on est prêt à faire les choses bien avec eux. Et surtout avec eux, pas pour eux. Il faut que ce soit l'habitant pour lui-même qui fasse ses décisions. Après, en tant qu'usager du bus, qui doit me rendre en périphérie de Brest pour travailler, c'est vrai que je peux déplorer certaines fois un service assez bas.
Justement, on va écouter un témoignage de notre série « Si j'étais maire » et je vous laisse réagir juste après.
Si j'étais maire de Brest, j'essaierais d'améliorer du coup les transports, notamment permettre une plus grande variété en fait des lignes de bus, notamment pour qu'elles soient aussi disponibles le soir, jusqu'à tard le soir, étant donné que en tant qu'étudiant après 22h, il y a très peu de bus, notamment pour revenir sur les lignes extérieures.
Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Oh non, moi ça me parle beaucoup. Pendant mes études, j'ai habité sur le technopôle de l'Iroise et j'ai déjà dû faire quelques fois à pied de rentrée de Liberté jusqu'à là-bas, donc bien 3 heures de marche. Donc je vois tout à fait le problème. Voilà, mais on n'arrivera pas en tant que sauveur, homme politique, messie, en disant on va régler ça. C'est d'une, il y a un contexte un peu particulier avec la délégation de services à Bibus. Donc voilà, il faut arriver à faire marcher ça, à faire en sorte que ce soit Bibus qui mette les moyens. Mais en tant qu'élu, c'est vrai qu'on va avoir un pouvoir. Mais si on arrive avec des solutions toutes prêtes des citoyens, voilà, c'est un autre impact. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, nous, on sait que les gens veulent ça. Ils ont eu les idées, ils savent ce qui peut marcher, ils savent que le bus, il peut passer là, ils savent que c'est mieux à ces heures-ci. Mais par contre, voilà, on va aussi donner aux habitants tous les moyens de décider. Si on leur dit, voilà, il y a plus de transport, mais les budgets sont impactés de cette façon-là, c'est eux qui vont prendre la décision de dire, oui, d'accord, ça peut être bien de prendre ce budget-là pour cette chose.
Et comment ça va se passer, justement, le lien avec les entreprises telles que Bibus ou les entreprises, par rapport à une démocratie indirecte ?
Je dirais que ça se passe quasiment pareil, À part que nous, on est un peu novice, c'est sûr qu'on n'a pas forcément nos entrées chez Bibus ou chez les grandes entreprises pour l'instant, mais on va simplement aller les voir et leur dire, voilà, ben nous, on va utiliser le pouvoir qu'on a en tant qu'élu. On n'a pas forcément énormément de pouvoir, hein, même... Voilà, on a certains précarés qu'on sait qu'on les aura, et on va surtout s'adresser, par exemple, à des juristes. On a déjà des juristes qui travaillent sur notre projet pour savoir, en fait, quelle peut être l'étendue de notre action. Et bon, on va s'appuyer sur ça, justement, pour savoir ce qu'il faut simplement négocier et arriver disant il faut des contreparties. Mais dans ce cas-là, tout sera transparent. C'est-à-dire qu'on met tout sur la table, on dit aux gens, voilà, c'est votre projet. Lui, il a dit qu'il voulait pas ça, donc il veut ça en contrepartie. On donne de la transparence. On veut pas de doux sous table cachés, même si c'est totalement légal. On veut que tout le monde ait accès à toutes les informations. On sait aujourd'hui, bah, les conseils municipaux sont entièrement revisionnables sur le site de Brest Métropole. On veut que ça continue. On veut aussi que les échanges finalement avec tous les partenaires soient aussi complètement transparents. On ne veut pas de petit clientélisme ou de prise à partie particulier pour quelqu'un qui serait un ami. Voilà, ça on veut surtout pas. Et d'ailleurs, on s'est engagé au travers d'une charte. Donc que ça soit la charte anticorps de 2014, les 30 points de anticorps 2020 ou même notre charte personnelle qui... On s'engage à démissionner si on ne respecte pas nos engagements. Donc, pour nous, c'est la priorité, justement, être transparent vis-à-vis des habitants, parce que c'est comme ça, finalement, qu'on pourra leur prouver que non, on va bien appliquer les décisions qu'eux ont prises.
Et donc, on va tout de suite écouter un second témoignage.
Si j'étais maire de Brest, je développerais la politique écologique de la ville via l'installation d'espaces verts plus développés.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Déjà, je vais faire une remarque peut-être un peu bête. J'avais trouvé que, durant les travaux du premier tram, j'avais trouvé ça dommage de perdre un certain nombre de petits espaces verts qui étaient le long du tram et passer entièrement sur une minéralisation. Après, bah on est ouvert. Hein. Je veux dire, si quelqu'un nous dit oui, on veut faire des espaces verts, on va pas du tout dire non. Hein. C'est pas le principe. On va écouter. Mais à contrepartie, si les gens, par exemple, nous disent ouais, mais on a besoin de places de parking, voilà, ça sera au choix citoyen de décider. Nous, on appliquera, même si ça va à l'encontre de nos valeurs. C'est un des points négatifs qu'on se dit. On va peut-être appliquer des projets, on va faire aboutir des projets qui ne nous plaisent pas, mais en même temps, quand on voit par exemple le budget participatif, tout ce qui ressort tourne plutôt sur le thème de l'écologie et des choses vertes, donc on est peut-être plus confiant dans l'intelligence collective. Ça on y croit vraiment.
On va partir sur un autre sujet maintenant. Beaucoup de collectifs souhaitent une égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. Est-ce que vous avez des envies de projet, en tout cas, parce que c'est pas vous qui les menez, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, en fait, on voit pas pourquoi il y aurait une différenciation. Donc, c'est une question quand même épineuse de se dire, est-ce qu'il faut faire de la discrimination positive ? Comment faire ? Comment inciter ? Et pour des études scientifiques, c'est vrai que j'ai toujours été... j'ai du mal à comprendre, en fait, comment on pouvait formater les gens dès le plus jeune âge pour finalement leur dire non, vous êtes plus pour ce genre de métier ou plus pour ce genre de choses. Et c'est vrai que si dès le plus jeune âge, on arrivait peut-être à donner confiance à tous les enfants sans discrimination, que ça soit de sexe, de couleur, d'apparence, de handicap, voilà, que tout le monde puisse avoir la même confiance en soi et se dire en fait non, mais si je veux le faire, je peux le faire. Après, c'est facile à dire. Hein. En tant que politique, ça serait démagogique de dire qu'on peut faire quelque chose comme ça. Je pense que même avec toute la bonne volonté du monde, on pourra tomber dans des situations impossibles. Donc, si les gens ont des propositions et croient vraiment leur projet, oui, on les soutiendra sans problème. Même si aujourd'hui, je pense que le problème est quand même assez compliqué. Et voilà, il faudra plusieurs générations avant d'arriver quand même à quelque chose, à un résultat efficace.
Et donc, selon la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, en moyenne en 2018, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime est estimé à 213 000 femmes. Il y a d'ailleurs moins d'une victime sur 5 qui déclare avoir déposé plainte. Et toujours en 2018, selon une enquête virage de l'INED, 25% des femmes âgées de 20 à 69 ans déclarent avoir subi au moins une forme de violence dans l'espace public au cours des 12 derniers mois. Qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent ?
Je dirais que oui, quand on les en prend comme ça, d'un point de vue, je dirais homme blanc comme ça, oui, ça interpelle. Dire, même ça interpelle de dire, est-ce que j'ai pas moi-même participé à un moment à ce genre de violence? Et bon, on a beau penser que non, ça se trouve, on a participé à ce genre de violence une fois sans s'en rendre compte. Et encore une fois, c'est clairement ancré dans les mœurs et ça fait peur de se dire voilà, qu'on peut agir de la sorte sans considérer finalement les femmes à notre égal. Voilà, dans l'appareil de choqué, je sais pas quoi dire.
On va tout de suite écouter un témoignage.
De Brest, je pense que j'améliorerais la sécurité dans les transports, notamment les transports en commun, parce que je pense qu'on voit pas mal de cas où, notamment des femmes qui se font agresser et les gens sont pas forcément à même d'intervenir. Du coup, bah, si on pouvait améliorer ça, ça serait bien.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je dirais que j'ai été moi-même choqué justement en discutant avec des amis il n'y a pas très longtemps de leur ressenti, des amis, des filles qui me disaient justement leur mésaventure qu'elles avaient pu avoir sur le tramway. J'étais vraiment choqué et interpellé de me dire mais en fait, je m'en étais pas rendu compte. Et bon, ça date d'il y a quelques mois. Mais avant ça, pour moi, Brest, c'était une ville assez gentille. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de rentrer seul le soir, mais de là à se dire, voilà, ça pouvait être commun, des petits gestes, mais qui finalement sont très dérangeants et qu'on ne devrait pas pouvoir supporter. Donc, on n'a pas de proposition. On sait qu'en plus, l'insécurité, finalement, c'est vraiment un sentiment, c'est difficile à mesurer. Et on sait qu'à partir du moment où il y a ce sentiment, c'est quand même compliqué de remettre de la sécurité, de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. Donc, là, voilà, on n'aura pas de propositions concrètes et peut-être qu'on attend justement les habitants et les habitantes aussi qui sont confrontés à ce problème-là. Elles ont peut-être des idées concrètes, simples à mettre en œuvre qui pourraient les rassurer. Car là, voilà, encore une fois, c'est un sentiment, mais il faut que ça soit aussi réel, qu'elle n'ait pas à craindre quoi que ce soit en marchant dans la rue.
Et donc là, on parle quand même d'un problème majeur. Mais comment est-ce que ça fonctionnerait pour, par exemple, les handicaps ou les minorités, en fait, dans le système, justement, de laisser la parole pour tous? Est-ce qu'il n'y aurait pas ce risque que certaines paroles soient un petit peu écartées au profit de la majorité?
Le but, c'est... On a déjà prévu un budget de... Peut-être, si je me souviens bien, 600 000 euros simplement pour que dans les assemblées thématiques et les conseils de quartier, on puisse mettre en place tous les outils qui permettent finalement que les gens prennent la parole sereinement. Donc ça passe par des emplois, justement tous les porteurs de parole avec les outils sociocratiques et tout le contexte d'environnement, de ne pas se sentir oppressé ou exclu d'un conseil de quartier. Donc on veut mettre les moyens, et c'est peut-être un des seuls budget qu'on annonce, on veut mettre les moyens pour que les conseils de quartier et les assemblées thématiques soient des lieux sanctuarisés où on puisse vraiment écouter tout le monde. On veut aussi passer par regarder les outils numériques qui seraient possibles de mettre en place, qui existent déjà à la mairie, et ce qu'on peut rajouter aussi pour que depuis Internet, voilà, on puisse faire des propositions, on puisse faire des choses. Et aussi pour tous ceux qui finalement n'aimeraient pas Internet, les conseils de quartier, la mairie ou même les assemblées thématiques leur sont quand même ouvertes.
Et donc le système de démocratie directe, comme ça, c'est un système qu'on ne connaît pas forcément. Comment est-ce que vous pouvez rassurer les gens? J'imagine qu'il y a des gens qui se sentent surpris face à ce genre de système. Comment est-ce que vous leur parlez?
Il y a qu'à voir. Si la personne estime qu'elle arrive à gérer son budget, peut-être élever ses enfants, aller à la fac, faire ses cours, c'est une personne qui a l'air à peu près responsable. Je ne vois pas pourquoi elle aurait finalement une moins bonne idée que quelqu'un qui a été élu. Il n'y a pas de différence en fait entre vous, moi, que ce soit le maire actuel, le prochain. Je ne vois pas la différence, quelles seraient nos capacités qui seraient différentes. Peut-être quelques connaissances différentes, mais c'est rien d'insurmontable.
Justement, sur cette question des connaissances, comment est-ce que vous abordez cette question finalement? Parce que voilà, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, n'a pas les mêmes formations. Comment est-ce que vous abordez ça?
On veut vraiment, tout va reposer sur la transparence. C'est quelqu'un qui a un projet qui a intéressé déjà un certain nombre de gens dans les conseils de quartier ou qui a une pétition qui a récolté beaucoup de signatures. On va le mettre en contact avec les services ou les experts qui sont du domaine. Et le but, c'est que finalement, cette personne pilote et entende les problèmes, voit avec les services. Et dans l'idéal, c'est que tout ça, tout ce dialogue soit retranscrit pour tout le monde. Qu'on n'ait pas une proposition, qu'on ait l'impression que c'était une magouille ou une décision un peu arbitraire. On veut remettre vraiment beaucoup de transparence, mais ça va tout reposer finalement sur notre capacité à dire peut-être au service de la ville, aux experts ou à tous nos prestataires de la ville, leur dire non, vous devez discuter avec ces gens-là, c'est votre obligation. Vous devez leur discuter, vous ne devez pas être réfractaire, vous devez leur transmettre des informations. Là-dessus, je pense qu'on peut y arriver parce que les gens en face, finalement, sont aussi des habitants. Il n'y a pas de raison dans un système où on dit à tout le monde non, mais les informations sont partagées, il n'y a pas de raison qu'ils fassent de rétention d'informations ou qu'ils cachent des choses particulières.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce soir.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir invités.
Avec plaisir. Et donc, je rappelle, Yoran Eli, que vous êtes candidat pour la mairie de Brest et sa métropole avec la liste citoyenne. Et donc, pour terminer cette interview, même principe musical, je vais vous laisser le choix du dernier titre. Donc, il nous reste Nanar Song du chanteur Donna ou L'opportuniste de Jacques Dutronc.
Et je prends Nanar Song que je ne connais pas du tout.
C'est parti.
Un peu de bon vent, lâcher mon baise en ville et mes vrais semblants, pendant que la foule défile au pas sur les champs. Je vais rejoindre mon île, accompagner le père Jean, saluer sa chopine et mes vieux poteaux à nardante, pendant que la foule bénit son nouvel arrivant. Charmant, je vais retrouver mon île où les anciens gardent le goût d'avant. Ma paire de joyeux de riz qui s'engueule en se frottant, pendant que la foule s'embastille, revient bas au Cougny, non t'attends. Passer pour absent, comme un proudhon d'origine, un déserteur de viande, en espérant que la foule se défoule et sonne la fin du nouveau clown. Adieu, adieu, monsieur le président. Adieu, adieu.
Vous êtes toujours sur le 101.1 FM à Brest et vous écoutez C'est vous qui le dites. C'était la chanson Nanar Song de Donna. Nous vous proposons ici une interview inédite du président des États-Unis, réalisée et doublée en français par des professionnels sur le thème du rêve américain.
Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir interviewer Monsieur le président Donald Trump sur le thème du rêve américain. Bonjour, Monsieur le président.
Hello, I'm very happy to be here with you today. It's really a great show.
Il dit bonjour et il dit qu'il est content d'être là aujourd'hui.
Dans ce cas, commençons tout de suite. Monsieur le Président, pensez-vous que le rêve américain existe toujours?
Yes, of course, no more than ever.
Il dit que c'est évident, surtout maintenant, parce qu'il est président.
You know, America has the best economy.
Il dit que les USA, c'est la meilleure économie du monde et qu'ils sont les plus forts.
It has an extraordinary entrepreneurship.
Il dit aussi que leur entreprise, c'est la meilleure. Leur culture aussi. Et aussi leur qualité de vie.
It's so huge.
Quand pensez-vous que le rêve américain disparaîtra?
The American dream will always et dit que le rêve américain sera toujours présent parce que les USA sont les meilleurs et de loin.
And that will still be the case in
et dit que ce sera encore le cas dans 100 ans.
The USA are even better
que les USA sont encore mieux maintenant.
Take for example our
il prend l'exemple de l'écologie.
During my mandate, we have become one
il dit que durant son mandat, les USA sont devenus un des pays avec les émissions les plus faibles. Les plus fortes.
En parlant d'écologie, les États-Unis sont-ils si avancés que vous le dites ?
Of course.
Il dit qu'il est sûr.
Take a look at the CO2 emission other countries reject.
Il suffit de regarder les émissions de CO2 des autres pays.
The USA are far better than any of them.
Et que les USA sont beaucoup mieux. Attends une minute.
That's
Et il dit que c'est connu.
Everybody keeps talking about global warming.
Tout le monde y parle du réchauffement climatique.
Not delude ourselves. It's only temporary.
Everything will
go back to normal in no time.
Mais il dit n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Je me contente de pas dire.
Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Donald Trump. Revenons au rêve américain, Monsieur le Président, si vous voulez bien. Vous qui êtes assez strict sur l'immigration, ne pensez-vous pas qu'il attire trop de gens?
Oh, that's not a problem. As always, I have the perfect solution.
Voilà, il dit qu'il a la solution.
Build a big wall between the US and
il veut construire un mur à la frontière mexicaine. Ah, mais c'est vraiment un con.
I also plan to build a second wall in Colorado. You know,
just un autre dans le Colorado, juste pour être sûr. Eh ben voyons.
A big one and sturdy one.
Il dit que ça va être un beau mur.
That's it.
Ouais, que j'arrête de compter. J'ai rien dit là.
Mais pensez-vous que c'est une bonne idée?
And you know what?
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il demande si vous savez quoi.
Vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur le président ?
Even if they come,
il dit que même s'ils viennent, les USA ont du travail pour eux.
That's incredible. Let me give you some. Hump it sniffer.
Renifleur des sels ? Parfumeur.
Animal cleaner. Cat food tester.
Technicien de surface. Vétérinaire.
Manure inspector.
Voilà, il énumère juste des emplois normaux.
Toilet emptier. Traveling arena.
Comment ça, je traduis pas correctement? Mais je peux pas décemment dire ça. Vous pouvez traduire à ma place, peut-être?
Or even proctologist. Isn't our country beautiful?
Brillante idée, monsieur le président. Mais vous ne craignez pas la jalousie des autres pays?
I do not fear the other country.
Il dit qu'il a pas peur.
What can they do? They're just
alive. Même s'ils sont jaloux, ils peuvent rien faire.
And if they try, they will be dealt with severely and
with. Et si jamais ils essayent? Ils s'en occupent illico. Comme par exemple à l'Iran. Là, je traduis ça comment ? Ouais, plus vite, je casse.
Ok. Merci, monsieur le président. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
You're welcome. Thank you for inviting me.
C'est vous qui le dites est terminé pour aujourd'hui. Merci à Yohann Eli de la liste citoyenne d'être venu ce soir. Retrouvez cette émission en podcast sur le site internet de Radio U ainsi que toutes les autres émissions de la radio. Le premier tour des élections se déroule ce dimanche 15 mars. N'oubliez pas d'aller voter. La semaine prochaine pour l'entre-deux tours qui donnera certains jours la... Pardon. La semaine prochaine, on va laisser un petit peu la parole à des associations et des organismes sur des questions abordées durant ces deux semaines spéciales municipales. On se retrouve donc lundi, toujours sur le 101.fm à Brest. Et en attendant, amusez-vous bien.